Le préfet Jean Moulin fait partie des fonctionnaires de valeur, mais prisonnier du régime ancien. Extrait de l'acte de révocation de Jean Moulin, le 2 novembre 1940.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La présente chronique des fenêtres de l'histoire vous propose dans une première partie une biographie de Jean Moulin. Mais il y aura également une deuxième émission où nous aborderons la période où il fut un des très grands organisateurs de la Résistance. Jean Moulin est un languedocien. Il est né en 1899 à Béziers, dans une bonne famille de la bourgeoisie bitéroise et républicaine. Son père est enseignant, Antoine Moulin. Il enseigne au lycée Henri IV et également dans une organisation qui a été créée pour apporter la grande culture aux classes les plus populaires, ainsi une université populaire. Il est également, à souligner, franc-maçon, mais accepte, à la demande de son épouse, que Jean, leur fils, soit baptisé. Jean vit dans une famille aimante. Il aura d'ailleurs des relations extrêmement affectueuses avec sa sœur Laure. Par contre, il aura la douleur de perdre son frère Joseph en 1907. L'enfant est vif. Et il s'intéresse déjà beaucoup au dessin. Il passe des heures entières à dessiner, et si on estime que c'est un élève moyen, on lui reconnaît tout de même un talent réel pour la caricature, pour les belles lettres, et aussi pour l'occitan, parce que c'est un occitanophone important. Au moment de la guerre, il est encore trop jeune évidemment pour être mobilisé, mais en 1917, il s'inscrit à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. Et il fait déjà preuve à la fois d'un dilettantisme, mais d'un goût toujours affirmé pour tout ce qui touche à l'art. Il est mobilisé en avril 1918 et affecté au 2e régiment de génie, qui est basé dans l'est de la France. Il connaît une formation militaire et il arrive en bordure du front le 20 septembre 1918. Sauf que, alors que son régiment s'apprêtait à monter en ligne, l'armistice est signé le 11 novembre. Il va donc échapper de ce point de vue aux horreurs de la Grande Guerre, mais qu'il a pu tout de même voir en traversant les zones de combat et en parcourant quelque peu le front. Il décide d'embrasser une carrière administrative et il devient, à la fin de 1920, chef de cabinet adjoint du préfet de l'Hérault. Mais surtout, après sa licence de droit, il devient un membre actif de la carrière préfectorale, puisque en 1922, alors qu'il a 22 ans, il entre dans l'administration au poste important pour son âge de chef de cabinet du préfet de la Savoie. Et d'autre part, entre 1925 et 1930, il est sous-préfet d'Albertville, à une époque où il est quand même le plus jeune sous-préfet de France. Cet homme est déjà connu dans les milieux, je dirais, qu'il traverse, pour être un homme un peu secret, beau garçon, qui s'intéresse au sport, il est un très bon skieur, pour s'intéresser aux arts et finalement au monde qui est en train de changer dans les années 20. C'est un homme de son temps qui se situe à gauche, assez proche des milieux du Parti radical socialiste. Et donc, tout en poursuivant une carrière administrative, il se fait remarquer dans une série de revues, comme par exemple Le Rire, où sous le pseudonyme de Romanin, il donne toute une série de caricatures et de dessins humoristiques. L'homme est donc à la fois à cheval entre l'administration de la République et les arts. La carrière se poursuit durant les années 30. En 1933, il est sous-préfet de Thonon-les-Bains, et puis il va se rapprocher d'un des grands hommes politiques de la décennie 1930, c'est Pierre Cotte. Il est effectivement au cabinet de Pierre Cotte, qui est ministre de l'Air. Il est nommé chef de cabinet au moment où Pierre Cotte prend ses responsabilités au sein du Front populaire. Conformément aux souhaits de la politique décidée par Léon Blum et par les forces qui composent le Front populaire, il aide clandestinement au passage d'armes envers la République espagnole et en leur envoyant également quelques avions et quelques pilotes. À l'âge de 38 ans, il devient préfet de l'Aveyron. Là encore, c'est le plus jeune préfet de France. Et en janvier 1939, il quitte Rodez pour devenir préfet d'Eure-et-Loire à Chartres. C'est là où le surprend la déclaration de guerre. Il aurait voulu ne pas rester dans son bureau, mais participer au conflit. Il demande à être relevé de ses fonctions et intégrer l'aviation. Cela lui est refusé. Eh bien, il va se destiner à diriger sa préfecture en temps de guerre. Et cette guerre va le rattraper de manière extrêmement brutale. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes lancent leur puissante offensive aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et dans les Ardennes. Le front est rompu après quelques jours et l'invasion de la France devient catastrophique à partir du début du mois de juin. Le 15 juin 1940, toujours à Chartres, il s'est refusé à quitter sa préfecture. Il écrit à ses parents une lettre quasi prémonitoire. « Si les Allemands, et ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. » Or effectivement, il va être mis, je dirais, sous les lumières de l'histoire de manière tragique. En effet, le 26e régiment des troupes coloniales françaises avait opposé une résistance farouche les 15, 16 et 17 juin, obligeant la Wehrmacht à s'arrêter et subir de nombreuses pertes. Or, le 17 juin, les troupes allemandes entrent à Chartres, Jean Moulin est arrêté et on demande au préfet de venir constater un massacre qui aurait été effectué par les troupes coloniales. En fait, ce massacre est en fait lié à un bombardement allemand qui a eu lieu le 14 juin sur la gare de Saint-Georges-sur-Eure. Mais les Allemands souhaiteraient que ce soit les tirailleurs sénégalais qui soient accusés des morts. Visiblement, Jean Moulin n'en croit pas un mot. Il est enfermé et il décide alors, pour éviter de craquer, de se suicider. Avec un bout de verre, il s'entaille la gorge. Il est finalement sauvé. Mais, comme il l'avait dit à ses parents, il voulait éviter le déshonneur. À partir de là, il garde son poste. Mais il est de plus en plus susceptible d'être révoqué par Vichy. En effet, il a été un grand préfet. Mais il est radical socialiste, proche des milieux de la gauche française, et donc il devient suspect auprès de l'État français. Ce qui fait que, le 2 novembre 1940, va être signé l'acte de révocation, où, comme j'ai eu l'occasion de le lire lors de ma petite introduction, Jean Moulin fait partie des fonctionnaires de valeur, mais prisonnier du régime ancien, c'est-à-dire attaché à la Troisième République. À partir de ce moment-là, il va prendre une décision. Alors que son acte de révocation est signé par le ministre de l'Intérieur, Marcel Perrouton, il décide d'entrer dans la clandestinité. Il va quitter Chartres le 15 novembre 1940 et s'installer dans un petit village du Vaucluse. À partir de là, pour Jean Moulin, commence une carrière fait de dangers, de clandestinité, qui va l'amener à un des postes les plus importants que la résistance française aura à pourvoir, celui de unifier, sous l'autorité du général de Gaulle, la résistance française. C'est ce que je vous proposerai de voir lors d'une prochaine mission.